La vie est pleine d'incertitudes, parce que l'avenir nous est totalement voilé. On se dit, tiens, demain je vais faire ceci ou cela. Et puis voilà un contretemps souvent fâcheux qui se présente. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive parfois d'être perplexe, et donc de ne pas trop savoir que faire. Dans ces situations, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir consulter Dieu directement ? Mais ce n'est pas possible. Par contre, sous le régime de l'Ancien Testament, il y avait moyen de poser des questions à l'Éternel. Je continue de lire dans le chapitre 7 du livre de Zacharie. Les habitants de Bethel envoyèrent des émissaires pour demander aux prêtres du temple du Seigneur des armées célestes et aux prophètes, « Dois-je continuer à pleurer et à jeûner au cinquième mois, comme je le fais depuis tant d'années ?» La constitution de la théocratie israélite et la loi de Moïse, c'est elle qui régit tous les aspects de la vie du peuple de Dieu. Dans ce contexte, où l'Éternel est le chef suprême de la nation, les prêtres et les prophètes servent d'intermédiaires entre lui et le peuple d'Israël. Les premiers interprètent la loi et présentent à Dieu les requêtes des fidèles. Ici, ils lui posent la question des émissaires de Bethel. Quant aux prophètes, ils communiquent la volonté de Dieu au peuple. Ici, ils recevront la réponse de l'Éternel et la transmettront aux intéressés. Comme le mot « prophète » est au pluriel, c'est qu'il y en a plusieurs. On connaît Agée, Zacharie et Malachie. Mais peut-être y en a-t-il d'autres, car tous ne sont pas écrivains. Comme je l'ai déjà dit, à cette époque, les Israélites commémorent les événements tragiques qui ont mis fin à l'existence du royaume de Juda par 4 jours de deuil étalés sur l'année. Le psaume 137 semble avoir été composé pour accompagner le souvenir de ces malheurs. Je le lis. « Au bord des fleuves de Babylone, nous nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs voulaient des airs joyeux. Comment peut-on chanter les chants de l'Éternel sur un sol étranger? Si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite perde sa force. Oui, que ma langue se colle à mon palais. Si je ne pense plus à toi, Jérusalem, si je ne te mets plus avant toute autre joie. » Des émissaires de Bethel demandent « Dois-je continuer à pleurer et à jeûner au cinquième mois ?» Le « Je représente les habitants de Bethel ». L'utilisation de la première personne du singulier pour désigner une communauté ou un peuple n'est pas rare, car on la trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament. La coutume juive de jeûner est généralement accompagnée de lamentation. Un comportement considéré comme une consécration au Seigneur, et il peut certainement l'être s'il exprime une repentance sincère venant du cœur, et non pas un conformisme religieux. Jésus dit à la femme samaritaine, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. » Doit-on prier debout, à genoux ou assis ? Est une fausse question. Les rites et la liturgie, les habits à pal-œil colorés, la musique sacrée, les protocoles et les draperies, tout ça, c'est du spectacle qui n'est pas nécessaire. Je veux bien croire qu'il est possible que ces supports religieux aident certaines personnes dans leur foi, mais le plus souvent, ils remplacent la véritable spiritualité. Les émissaires venus de Bethel ne mentionnent que le jour de deuil du cinquième mois. Le second des 4 jours de jeûne, parce que c'est celui qui rappelle l'événement le plus grave, la destruction de Jérusalem et du Temple. Si ce jour de deuil est supprimé, les 3 autres disparaissent également. La démarche des habitants de Bethel sous-entend leur désir de supprimer cette pratique religieuse que les exilés israélites se sont imposés. En effet, il faut savoir que la loi de Moïse ne prescrit qu'un seul jeûne par an pour le jour des expiations appelé Yom Kippour. Dans le livre du Lévitique, on lit « Le 10e jour, de ce septième mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas en ce jour-là sera exclue de son peuple. Le jour des expiations, tous les Israélites sont sommés par l'Éternel de jeûner et de pleurer sur leurs péchés. Mais en dehors de ce jour solennel, Dieu a prescrit non pas des jours de lamentation et d'abstinence, mais des jours de fête pendant lesquels les Israélites sont tenus de se réjouir. Je rappelle brièvement ces jours de fête. Le sabbat hebdomadaire, le premier jour de chaque mois, la fête des trompettes au début du septième mois, la Pâque au premier mois, accompagnée de la fête des pains sans levain, la fête des semaines, aussi appelée fête de la moisson ou fête des premiers fruits, ou encore jour des prémices, que l'on nomme plus tard Pentecôte, parce qu'elle se célèbre 50 jours après Pâques. Ensuite, on a la fête des tabernacles, ou fête des cabanes, ou fête des récoltes, qui a lieu au septième mois. Outre les solennités que prescrit la loi, les Juifs en ont rajouté d'autres, comme la fête des Pourim, qui commémore la délivrance des Juifs qui échappèrent à un vaste complot que nous raconte le livre d'Esther. La fête de la dédicace, décrétée par Judas Maccabée, pour commémorer la deuxième consécration du temple après sa profanation par le despote Antiochus. Cependant, préférant pleurer que de se réjouir, les Israélites rajoutent ici et là des jeûnes pour marquer divers événements tragiques de la vie de la nation. Par exemple, dans le livre des Juges, l'auteur nous raconte une histoire particulièrement sordide qui déclenche une guerre civile entre la tribu de Benjamin et le reste de la nation, après deux défaites consécutives des dix tribus. Dans le livre des Juges, on lit « Alors, tous les Israélites montèrent en foule à Bethel. Ils restèrent là, assis devant l'Éternel, pleurant et jeûnant jusqu'au soir. » Plus tard, c'est un acte de repentance qui conduit les Israélites à jeûner. Dans le premier livre de Samuel, on lit « Ils s'assemblèrent à Mispa, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent « Nous avons péché contre l'Éternel ». Ces jeûnes volontaires sont des élans religieux sans valeur, comme le fait remarquer le prophète Ésaïe qui écrit « Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. » Je continue le texte du chapitre 7 du livre de Zacharie. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en ces termes. Cette formule, qui est encore répétée trois fois, sert à marquer les quatre oracles qui constituent la réponse de l'Éternel à la question posée par les représentants des habitants de Bethel. Ce verset est en réalité la continuation du premier du chapitre 7 qui a été interrompu afin de donner des éclaircissements sur la nature des personnes concernées par cette affaire et sur l'objet de leur visite à Jérusalem. Je continue. « Parle à toute la population du pays, aux prêtres, et demande-leur. Quand pendant 70 années, vous avez jeûné et pris le deuil au cinquième et au septième mois, est-ce pour moi, que vous avez observé ce jeûne ?» La question de rhétorique de l'Éternel signifie qu'il n'est pas impressionné le moins du monde par l'attitude « pauvre de moi » des Israélites. Cette réponse de l'Éternel aux représentants de Bethel est adressée à tous les colons, car la question soulevée les concerne aussi. Les prêtres sont mentionnés parce qu'ils sont responsables d'enseigner le peuple et de l'exhorter à obéir à la volonté de Dieu. Le cinquième et le septième mois, le jeûne proclamé commémore le premier, la destruction de Jérusalem et du temple par les Babyloniens. Et le second, l'assassinat du gouverneur Guédalia, mis en place par les Chaldéens. Ainsi que la fuite en Égypte des Israélites qui avaient pu rester au pays. Dans le second livre des rois, on lit « Alors, tous les habitants de Juda, quelle que fût leur condition sociale, se mirent en route et se rendirent en Égypte par peur des représailles des Chaldéens. » Le jeûne du septième mois décrété par les Juifs commence le troisième jour et non pas le dixième jour qui lui correspond au jeûne obligatoire selon la loi. Jeûne lié au Yom Kippour, le jour des expiations. Nous sommes en l'an 518, et la mention par l'Éternel des 70 années de captivité nous renvoie à l'année 588. À cette époque, c'est Sédécias, l'oncle du roi légitime Joachim, qui règne sur Juda en tant que vassal de Babylone. Mais Sédécias se complote avec l'Égypte et se rebelle contre Nabucodonosor, qui en l'an 588 revient en Palestine avec son armée et envahit le pays de Juda. L'année suivante, il encercle Jérusalem et après un siège de 18 mois, il investit la ville et la détruit entièrement. Il déporte alors massivement la population en Babylonie, puis installe Guédalia comme gouverneur. Bien que l'Éternel ne réponde pas tout de suite à la question des émissaires de Béthel, il le fera plus tard. Avant de répondre, Dieu veut élargir la discussion et remettre les pendules à l'heure en rappelant aux Israélites que ce sont des rebelles à la tête dure. Par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes, Dieu avertit leurs ancêtres qu'ils désirent un culte d'adoration qui vienne d'un cœur sincère et non pas des rites poussiéreux de façade genre moulin à prière, génuflexion à tour de bras ou sacrifice à gogo. Les prophètes Ésaïe et Amos écrivent respectivement « Que peut bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse de bêtes en engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux, comme de boucs. Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en aurore. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. » L'Éternel profite donc de la venue des représentants de Béthel pour poser lui aussi une question à tous les colons juifs. Il demande « Est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne, jeûne du cinquième et du septième mois? Ces jours de deuil n'ont pas été ordonnés par l'Éternel. » Et ils n'ont pas été institués pour l'honorer. Alors Dieu dit qu'il vaudrait bien savoir pourquoi les Juifs les observent. Jeûnent-ils parce qu'ils sont repentants à l'égard de leurs infidélités et de celles de leurs ancêtres, ou bien est-ce que c'est de l'apitoiement sur soi de bas étage, dû aux souffrances qu'ils ont endurées à cause de leurs propres péchés, ou pire encore, se flagelle-t-il l'homme pour essayer de gagner quelque mérite? Quand l'Éternel demande « Est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne ?» La répétition « pour moi » montre que Dieu en a plus qu'assez de voir comment les Israélites se contorsionnent, se morfondent et se transforment en saules pleureurs les jours de deuil qu'ils se sont eux-mêmes imposés. Dieu ni n'approuve, ni ne condamne les rites. Ce qui l'intéresse, ce sont les mobiles de ceux qui les pratiquent, et il a en horreur le légalisme parce qu'il n'apprécie ni l'hypocrisie, ni qu'on se moque de lui. Il est évident que la question que le Seigneur pose ne demande pas de réponse. Ce qu'il veut, c'est inciter son peuple à réfléchir aux véritables raisons pour lesquelles il jeûne et fait grise mine. L'apôtre Paul parle de deux sortes de tristesse existentielle. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, il écrit « La tristesse, qui est bonne aux yeux de Dieu, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle conduit à la mort. » Il existe en effet une différence fondamentale entre la repentance et le remords. La première engendre la tristesse parce qu'on a offensé Dieu, tandis que le second attriste à cause des conséquences fâcheuses de ses fautes. Ces deux attitudes sont bien illustrées par les comportements du roi David d'une part et de Judas d'autre part. Dans le célèbre psaume de repentance, le 51, le roi David, qui a commis d'énormes péchés, écrit « Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. » David fut puni pour ses fautes, mais pardonné. Après avoir lâchement trahi Jésus, Judas est dépassé par des événements qui ne se déroulent pas comme prévu, et il est obligé de constater que son plan machiavélique a échoué. Dans l'Évangile selon Matthieu, on lit « Alors Judas fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en alla se pendre. Ce n'est pas la repentance, mais l'amère déception et le dépit qui conduisirent Judas à se suicider. Je continue le texte de Zacharie. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites? L'Éternel reproche aux colons juifs de ne pas se soucier de lui. Qu'ils fassent la fête ou prennent le deuil, c'est pour satisfaire leur propre personne. Il n'y a pas de mal à manger et à boire, tant que c'est avec modération. Mais il ne faudrait surtout pas penser que se nourrir ou se priver de certains mets est un acte spirituel qui plaît à Dieu. Si un ascète, comme Bouddha, décide de ne manger qu'un grain de riz par jour, ça le regarde. Dans ce premier épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. » Ce n'est pas dire que, comme un animal, je peux engouffrer tout ce que je vois. L'être humain est appelé à rendre grâce à son Créateur pour tout ce qu'il reçoit. Là encore, et toujours, dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Ainsi que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Je continue le texte. « N'est-ce pas là ce que l'Éternel a déjà fait proclamer par les prophètes d'autrefois? Au temps où Jérusalem était bien établie et jouissait de la tranquillité, entourée de ses villes, et que le Négev et le pays plat étaient peuplés. » Zacharie mentionne les trois divisions du royaume de Juda. Jérusalem, entourée de ses villes, et la région montagneuse, le Négev et le sud du pays, le plat pays ou bas pays, et la plaine le long de la côte méditerranéenne. Au moment de cette prophétie, Juda est très faiblement peuplé, ce qui est l'occasion pour l'Éternel de rappeler aux colons juifs la prospérité de Juda avant sa destruction. Il veut par là leur remettre en mémoire tout ce qu'ils ont perdu à cause du châtiment qu'ils ont subi du fait de leur rébellion contre Dieu. Ce n'est pas que les Israélites avaient abandonné les rites du judaïsme. Au contraire, avant la destruction de Juda, ils offrent des sacrifices à tour de bras. Mais c'est pour compenser leur manquement aux exigences de la loi dans les domaines moral et social. Ils sont pourtant le fer de lance de l'enseignement des textes sacrés. Je lis trois passages tirés du livre des Proverbes et des prophètes Ésaïe et Michée, respectivement. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel plus que s'il offrait des sacrifices. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Ô homme, il t'a déclaré ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu? L'homme étant religieux par nature, il lui est relativement facile de suivre quelques rites ici et là. Par contre, se soumettre à son Créateur et lui obéir du fond du cœur est totalement hors de sa portée. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de la grâce de Dieu.